Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Lim Wang Nok, économiste, maître de conférence à l'Université de Paris 1.
Et invité préféré de Dessous, puisqu'il est venu de nombreuses fois depuis 2002, puisqu'il m'avait fait déjà l'honneur de venir dans la première année de Dessous. Il vient ici pour la dernière émission définitive de Dessous et la 200e émission originale.
À cette occasion, je voudrais rendre hommage à cette émission et à Pascal en particulier. C'est une émission qui serait digne de figurer dans la grille des services publics radiophoniques. Tant l'éducation populaire en matière économique est nécessaire aujourd'hui.
L'animatrice rouge, oui. Alors, Lim, vous avez écrit un petit livre récemment qui s'appelle Sarconomics. C'est aux éditions Grasset. C'est dans une petite collection pas chère, 9 euros. Et j'ai repéré un certain nombre de mots, dont en particulier celui-ci, en parlant de Sarkozy. Vous parlez de restauration néoconservatrice, diantre, à ce point-là ?
Bah oui, parce que la droite française qui prédomine après la Deuxième Guerre mondiale n'est ni une droite libérale, ni une droite légitimiste au sens de René Raymond. C'est une droite bonapartiste qui a une filiation montagnarde au sens où elle fait alliance avec des composantes de la première gauche, de ce que l'on appelle en France la première gauche, et cette alliance se noue dans le Conseil national de la Résistance. Le modèle qui émerge en 1945, c'est un modèle qui, à bien des égards, comporte ce que j'ai pu appeler dans d'autres ouvrages des îlots de socialisme, une sécurité sociale gérée par les syndicats, une certaine planification indicative de l'investissement et de son financement, un État social fort, un modèle de service public, etc. Ce que l'on voit émerger ensuite sous l'impulsion des héritiers du général de Gaulle, c'est autre chose. Chirac lui-même en 86 est beaucoup plus inspiré par le modèle thatchérien. Et à partir de cette date, il s'agit pour lui de piquer l'électorat et les idées de l'UDF. Et donc, il se situe résolument sur le terrain libéral. Mais ça, c'est beaucoup plus assumé à partir de 93 par le couple Balladur-Sarkozy lors de la deuxième cohabitation. Et la rupture qu'entend incarner Nicolas Sarkozy ne fait qu'enfoncer le clou. Elle a commencé bien avant le 6 mai 2007. Et ce qu'essaye aujourd'hui de faire Sarkozy, c'est de rendre irréversible le détricotage du compromis de 45 et d'assurer définitivement la transition du modèle social que nous avons connu vers un modèle de type anglo-saxon. Alors moi j'ai utilisé le terme de rentier à dessein, mais en référence à la littérature économique, parce que si l'on prend les classiques chez les économistes, Adam Smith et David Ricardo, par exemple, qu'on enseigne en première année aux étudiants, l'économie qu'ils dépeignent est une économie au XVIIIe siècle où les rentiers sont les propriétaires terriens et les capitalistes sont les agriculteurs, les fermiers capitalistes. Et puis la troisième classe d'acteurs, parce que c'est le terme de classe sociale qu'ils utilisent, tout économiste libéraux qu'ils étaient, bah c'était les travailleurs agricoles. Et donc, si on fait une analogie avec cette période-là, aujourd'hui, les nouveaux rentiers, c'est quoi ? C'est plus c'est les propriétaires d'actifs physiques, hein, qui ont remplacé les propriétaires terriens d'antan. Les capitalistes, c'est plus agriculteurs capitalistes. Ce sont aujourd'hui les entrepreneurs et les cadres dirigeants qui œuvrent sous la férule des nouveaux propriétaires. Et puis, les salariés sont toujours là, mais travaillent moins à la ferme et beaucoup plus dans l'industrie et le tertiaire. Et la seule différence, c'est une différence de terme, mais au fond, la rente qu'exigeaient les propriétaires terriens aux agriculteurs capitalistes est un parallèle qu'on peut effectuer avec la rente financière qu'exigent aujourd'hui les fonds de pension et les fonds de placement aux entrepreneurs qu'ils rémunèrent grâce aux stock options et aux salaires extrêmement élevés. Alors, la Sarconomics fait le lit d'une société de rentiers sans le dire. Au nom de la réhabilitation du travail, c'est là où c'est pervers, si vous voulez, c'est que c'est un discours qui fait rêver les pauvres et qui leur fait croire que par le travail, ils pourront devenir des Dassault, des Bolloré, des Bouygues, etc. Sans dire que la fortune des nouveaux rentiers n'a absolument pas été obtenue par le travail, mais par l'exploitation, en vérité, du travail des salariés de façon tout à fait classique.
Mais certains pourraient peut-être vous dire, mais c'est bien qu'il y ait des rentiers qui gagnent plein de sous parce qu'ils le réinvestissent. Et ça fait tourner l'économie. Donc ouais, il y a des riches. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout récemment à propos d'un cuisinier qui était parti, qui s'est fait naturaliser monégasque. À ce moment-là, on a entendu des gens de l'UMP dire « Ah, mais les pauvres ont besoin des riches ». J'ai entendu ça à propos de l'ISF.
Oui, alors il faut être un petit peu post-keynésien, hein, au sens des économistes cambridgiens qui étaient Nicolas Kaldor, Michel Kaleski ou Joan Robinson, qui sont des économistes très peu connus en France, mais qui ont tenté de prolonger la théorie keynésienne en considérant, par exemple, que il existait différentes propensions à consommer et à épargner dans une économie selon la classe à laquelle appartiennent les agents économiques. Par exemple, la propension à consommer ou à épargner, la propension à consommer d'un smicard est égale à 1. Il consomme tout son revenu, si vous voulez. Donc sa propension à épargner symétriquement est égale à 0. Et généralement, un smicard aujourd'hui, même endetté, sa propension est supérieure à 1. Quand il consomme plus que son revenu, il boucle plus ses fins de mois, quoi. Si vous prenez par contre un rentier, bon, un actionnaire, pour ne pas utiliser les grands mots, un actionnaire qui est très riche, qui gagne plus de 30 fois le SMIC, bon, une fois qu'il a consommé la moitié de ses 30 SMIC, bah, l'autre moitié, il a du mal à la consommer. Ou alors, faut vraiment qu'il soit collectionneur de belles italiennes, des voitures, bien entendu. Hein. Bon, mais même s'il collectionne des belles voitures, il restera toujours une fraction de revenus que son banquier va se charger de placer sur les marchés. Ou bien lui conseiller de placer dans l'immobilier où il va plumer un locataire qui pourra pas boucler ses fins de mois, quoi. Bon, donc ça se passe comme ça, si vous voulez. Quand vous distribuez de l'argent aux nouveaux rentiers, par exemple, si vous faites un paquet fiscal où la moitié du paquet fiscal revient à distribuer du revenu aux classes à forte propension à épargner, eh bien, il n'en consomme qu'une partie, et donc l'autre partie va se retrouver dans la spéculation financière ou immobilière, avec des effets extrêmement nocifs sur l'économie. Aujourd'hui, la croissance est tirée exclusivement par la consommation des classes riches. Alors, on peut imaginer qu'en distribuant vers les classes riches, ça va booster la croissance, mais enfin bon, ça va être insuffisant puisque le supplément de revenus ne va être qu'en partie consommé, le reste alimentant une épargne qui, en théorie, devrait, d'après les économistes libéraux, alimenter l'investissement, puisque quand vous placez, c'est des fonds propres qui peuvent être mobilisés par les entreprises. Malheureusement, les entreprises qui pourraient investir aujourd'hui parce qu'elles ont des capacités d'autofinancement importantes, elles font des profits importants, parce qu'elles disposent de fonds propres importants également, eh bien ces entreprises n'investissent pas, si bien que vous avez une situation où l'épargne en France est particulièrement abondante. Et ne sert pas à grand chose, quoi. Encore heureux que l'État la mobilise par le biais de la dette pour financer la dépense publique, mais il le fait très mal, puisque aujourd'hui on a par exemple mobilisé les 13,8 milliards du paquet fiscal par l'emprunt pour prendre des décisions qui sont absolument catastrophiques sur le plan macroéconomique, puisque le paquet fiscal a un effet extrêmement restreint sur l'économie, quoi.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Lee Mohannock. Alors, un petit truc que j'ai pas très bien compris, c'est ma petite formule rituelle, me direz-vous, mais Tout à l'heure, vous avez dit que les banquiers disaient aux riches de placer leur argent, enfin leur épargne sur les marchés et dans l'immobilier. Donc, ça tire la croissance, tout ça. Ça fait travailler d'autres, non?
Bah, en théorie, oui, si on considère que l'épargne sert à financer l'investissement, c'est-à-dire l'achat de biens d'équipement pour produire dans les entreprises. Le problème de l'économie française aujourd'hui, c'est que malgré cette importance de l'épargne mise à la disposition des entreprises, nos grandes entreprises subissent une panne d'investissement. Contrairement à ce que l'on pense, le capitalisme financier n'est absolument pas efficace sur le plan du dynamisme de l'investissement. Les entreprises aujourd'hui n'investissent pas ou trop peu. La tendance est baissière depuis une quinzaine d'années et toute l'économie s'en ressent. Hein. Si les grandes entreprises qui sont censées investir, notamment dans l'économie de la connaissance, ne le font pas, eh bien, ce sont des commandes qui font défaut à tout le tissu des petites et moyennes entreprises, qui est un tissu d'entreprises sous-traitantes en France. La France n'a pas des PME à taille critique importante et exportatrice comme en Allemagne. Ce sont essentiellement des sous-traitantes. Bon, donc s'il y a une panne d'investissement des grandes entreprises, il y a une panne généralisée d'investissement. Et aujourd'hui, quand je dis que la croissance est tirée exclusivement par la consommation des classes riches, il faut savoir que les principaux moteurs de la croissance économique, c'est quoi? C'est l'investissement, c'est la consommation et c'est le commerce extérieur. Bon, l'investissement est en panne, les entreprises perdent de la compétitivité parce qu'elles n'ont pas innové. Donc le commerce extérieur est dans le rouge. Nous avons un déficit supérieur à 40 milliards d'euros aujourd'hui. Et seule la consommation tire la croissance, mais pas la consommation populaire, puisque les salariés la moitié des salariés qui gagnent en dessous de 1480 euros par mois subit un problème de pouvoir d'achat depuis une vingtaine d'années maintenant, et ce sont exclusivement les consommations des classes bénéficiaires des dividendes du nouveau capitalisme qui tirent la croissance. C'est les 4x4, c'est les produits de luxe, etc., quoi, qui tirent aujourd'hui la croissance. Donc on est dans une véritable société de rentiers où la dynamique économique de notre pays dépend intégralement du comportement de consommation et d'épargne de ce que l'on pourrait appeler les nouveaux rentiers.
Comme dans le temps, les riches sous l'ancien régime, avec leurs valets de l'autre côté. C'est un peu ça?
Bah, c'est beaucoup ça si on considère que le plaidoyer en faveur des services à la personne restaure aujourd'hui une forme moderne de servitude vis-à-vis des classes aisées. Parce que les seuls endroits où les emplois sont créés aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle vulgairement les emplois borloos, c'est des emplois à 10 heures par semaine dans les services à la personne et très mal rémunérés. Alors si c'est ça les futures offres valables d'emploi du gouvernement, on peut penser que la précarisation va se poursuivre, oui.
Il y en a certains qui pourraient peut-être vous dire, enfin surtout s'ils sont sarkozistes, que si les entreprises n'investissent plus, c'est parce qu'il y a trop de rigidité. C'est pour ça, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est que franchement elles peuvent pas.
Il y a plus tellement de rigidité sur le marché du travail, comme disent les économistes dans leur jargon. Si vous prenez les salaires, ils sont parfaitement flexibles. La part des salaires dans la valeur ajoutée, mais ça c'est une tarte à la crème, tout le monde le sait, a baissé de 10 points depuis 1983. 10 points, ça dit rien comme ça aux gens, mais le PIB c'est 1800 milliards, 10% du PIB c'est 180 milliards. Vous aviez 180 milliards d'euros qui allaient dans la poche des salariés et qui sont passés dans la poche des actionnaires. Bon, donc vous voyez l'effet. Quand vous considérez que le déficit de la sécurité sociale branche santé, c'est 4,5 milliards, vous voyez mieux quelle est la nature du problème, quoi.
Des sous et des sommes, mais on est toujours en compagnie de Limo Angnoc. Je vais encore jouer ma petite Sarkozy, mais... Franchement, il essaye de bien faire les choses parce que il essaye de favoriser la compétitivité de la France. Tout ce qu'il fait, c'est une nécessité pour être compétitif dans l'économie actuelle, non?
Dans le discours, oui, sauf que les mesures fiscales néoconservatrices, comme je l'ai indiqué, favorisent la rente plus que l'entreprise. Les mesures qui sont prises pour soi-disant stimuler l'investissement sont des mesures dites structurelles sur le marché du travail, visant à affaiblir le pouvoir de négociation des salariés et rendre le marché du travail plus flexible. Dans le cadre de ce que l'on appelle, dans le jargon européen, la stratégie de Lisbonne, qui est une stratégie adoptée au sommet européen de mars 2000, qui a été révisée en juillet 2005, et qui propose de faire de l'Europe la zone la plus compétitive du monde, avec une croissance forte tirée par l'économie de la connaissance. Et cette stratégie, pour la résumer, repose sur des réformes visant à introduire la concurrence sur le marché des biens et des mesures dites structurelles sur le marché du travail, tout en réduisant le poids de l'interventionnisme public, puisqu'il y a des objectifs de restriction budgétaire qui sont fixés. Donc c'est une stratégie, si vous voulez, à dominante libérale, qui considère que pour entrer dans l'économie de la connaissance, il faut que les travailleurs soient flexibles, qu'ils puissent se mouvoir de l'ancienne vers la nouvelle économie, et que pendant les périodes de transition, il faut les obliger à se former pour acquérir les compétences nécessaires pour manier les ordinateurs, etc. Bon, le problème, c'est que personne ne dit que cette stratégie est un échec total, si l'on considère les taux d'investissement dans précisément l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, si on prend les indicateurs, c'est aujourd'hui une économie fantôme. La France n'a pas investi dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et si l'on prend les emplois vacants, c'est pas dans l'économie de la connaissance. Les emplois vacants, il y en a à tout casser 295 000 selon les chiffres de la NPE. Ces 295 000 emplois vacants, on se rend compte désormais qu'ils sont occupés parfois par des sans-papiers. Donc il n'y a pas tellement d'emplois vacants. Et ces emplois vacants, c'est le bâtiment et la restauration essentiellement. Donc c'est pas l'économie de la connaissance. Si vous voulez, ce qui me fait dire que, très concrètement, nous sommes face à un fétichisme, un double fétichisme, au sens où on nous vend l'économie de la connaissance pour justifier des choix de société reposant sur une plus grande flexibilisation du marché du travail, une plus grande individualisation des droits. Et puis, fétichisme également, parce qu'on estime que la meilleure façon de financer l'émergence de cette nouvelle économie, c'est pas l'intervention publique, c'est pas la politique industrielle, mais c'est de laisser faire les marchés financiers et la rationalité de l'épargne, dont on a vu qu'aujourd'hui, elle ne servait pas à grand-chose, quoi.
Vous aviez parlé d'investissement public, de politique industrielle. C'est ce vers quoi il faudrait retourner?
Ah oui, moi je crois que il y a deux gros mots aujourd'hui dans la politique économique qui sont la redistribution et la politique industrielle. Oui, si on veut parler de tabous, comme dit Manuel Valls et d'autres, les véritables tabous sont pas où on croit. Les véritables tabous, c'est qu'aujourd'hui plus personne ne parle de redistribution, c'est devenu interdit. Plus personne ne pense qu'on peut rétablir la part des salaires dans la valeur ajoutée, plus personne ne pense que la fiscalité doit être redistributrice, et plus personne ne pense que il faut que l'État remette son nez dans la politique industrielle à l'heure où c'est une véritable catastrophe que l'on a devant nous, que d'observer que les quatre vagues de privatisation ont abouti à la désindustrialisation de notre pays.
Est-ce que ça serait possible dans une économie comme la nôtre, enfin en particulier au sein de l'Europe, d'avoir une politique industrielle?
Au sein de l'Eurogroupe, c'est possible, à condition qu'émergent des champions nationaux et que l'on revienne sur le dogmatisme des règles de concurrence, car si l'on construit des champions européens, il est clair que il va falloir que l'État s'y mette, et que donc il va falloir revoir les règles qui interdisent la concurrence libre et non faussée et qui supposent que l'État n'intervienne pas, quoi.
Sarkozy va nous faire ça pendant sa présidence européenne?
Écoutez, Sarkozy a annoncé l'année dernière pendant la campagne électorale qu'il relancerait le débat sur l'euro fort, parce que quand même la monnaie c'est le principal instrument qui permet d'assurer la préférence communautaire. Aujourd'hui nous avons un euro qui pénalise nos entreprises à l'exportation et qui les fragilise sur le marché intérieur puisque les produits fabriqués en zone dollar et dans les pays à bas coût entrent comme dans du beurre en Europe. Donc on attend qu'il lance ce chantier. Il avait promis également dans le cadre de la préférence communautaire de lancer le chantier de la protection des industries et de l'emploi. Là, on attend toujours l'utilisation d'un tarif extérieur commun à l'échelle européenne sur une liste de produits aujourd'hui qui sont menacés par la concurrence déloyale des pays à bas coût. Et puis, quand Henri Guénot était en grâce, il y avait un débat sur le pacte de stabilité qui aujourd'hui est enterré puisque malheureusement Monsieur Sarkozy a accepté d'inscrire dans la réforme institutionnelle une super partie 3. Pour ceux qui, les initiés qui connaissent, la partie 3, c'est celle qui fixait dans le traité constitutionnel les politiques, qui instaurait les normes de politique libérale dans le traité constitutionnel. Ça avait fait l'objet d'un gros débat au moment du rejet. Bien là, on nous a resservi une super partie 3 en inscrivant le principe de l'équilibre budgétaire dans la Constitution. C'est quand même une première. Dans aucun pays, vous n'avez ça. Et pour la première fois, les gouvernements vont être tenus sur des dépenses essentielles comme des dépenses de santé et d'éducation qui sont comptées dans les dépenses de fonctionnement, d'assurer le principe de l'équilibre budgétaire. Ça signifie qu'il y aura sans doute des coupes sombres dans les services publics à un moment où de nombreux économistes pas forcément hétérodoxes considèrent que la santé et l'éducation, c'est des dépenses porteuses d'avenir.
Et oui, c'était donc des sous et des hommes avec Liban Mnoc qui a donc publié un petit livre qui s'appelle Sarkonomics. C'est aux éditions Grasset, ça coûte 9 euros. Il y avait aussi un livre que moi j'avais beaucoup aimé, c'était La sortie de l'eurolibéralisme. Lim, vous pouvez me le redire le titre?
Ah, c'était Refermons la parenthèse libérale.
Refermons la parenthèse libérale que je vous conseille vraiment très vivement. Et puis, il me fait plein de petits livres pédagogiques que, pour ma part, j'adore. Et bien voilà, c'était la dernière définitive de Dessous. C'était la 200e édition originale. Je tiens à remercier d'une part et tout d'abord tous les invités qui sont venus à Dessous, qui m'ont fait l'honneur de venir, y compris ceux qui sont venus, et en particulier ceux qui sont venus la première année, parce que voilà, c'était une émission peu connue. Bah, ils sont venus, y compris Henri Guénot d'ailleurs, et je les en remercie vraiment très vivement. Je remercie l'ensemble des techniciens à qui je n'ai jamais dit merci, en particulier Gilles qui a été mon premier technicien, Romain et Alex qui fait beaucoup de choses à Aligre. Je tiens aussi à remercier, puisque c'est le jour, mes webmasters Gaël et Alexandre, tous les transcripteurs et tous les relecteurs des émissions qui sont sur le site, en particulier Audrey qui est ma transcriptrice depuis plusieurs années, Alex qui est mon relecteur favori. Surtout, je tiens à remercier Aligre, qui est une radio exceptionnelle, qui m'a offert un espace de liberté qu'on trouve nulle part ailleurs et dont devraient s'inspirer les autres médias. Et à mon avis, ça risque de ne pas être trop le cas ces derniers temps avec ce qui est en train de se passer. Dernier remerciement, puisque ça va être l'heure, je remercie tous les auditeurs de Dessous en général et en particulier ceux qui m'ont envoyé un petit mot pour me soutenir pendant ces 7 années. Voilà. Pas à la semaine prochaine.